Le sujet qui a été choisi par les organisateurs est un sujet très important. Très important parce que pour chacun d'entre nous, dans le monde contemporain, la question du rapport de notre religion, de nos références, avec nos sociétés ou la société en général, est une question fondamentale. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, quand elles parlent de religion, et cela est dû essentiellement au discours dominant de la culture occidentale, est en train de traduire l'idée que la religion doit être et doit demeurer quelque chose qui reste dans la dimension et dans la sphère privée, et que la société, c'est autre chose. En d'autres termes, en matière d'introduction, nous aurions l'idée et l'équation que tu es musulman et tu es musulmane 5 fois par jour parce que tu fais ta prière, ou moins quand tu es plus négligent, puisqu'il faut que nous soyons lucides par rapport à notre communauté, que tu es musulman et musulmane quand tu te rends à la mosquée, quand tu es dans une soirée comme celle-ci entre musulmans, pour la majorité bien entendu d'entre vous, et qu'il y aurait une autre vie à côté de cette vie qui est la vie sociale, dans la société où on oublie un peu, souvent, trop souvent, les principes de notre religion. Et aujourd'hui, très souvent, le discours dominant est celui qui dit « ce qui concerne ton cœur te concerne toi, ce qui concerne les hommes » ne concerne pas ton cœur. Or, l'islam, notre religion, nous dit que ces distinctions-là sont le début de la fin. Si l'on te dit que tu gères ton cœur tout seul et que tes comportements ou ton comportement social n'a rien à voir avec la lumière de ton cœur, au moment où on essaye de t'expliquer qui tu es, on ne te donne pas la possibilité d'être musulman devant Dieu, musulmane devant le Créateur. Il faut donc que nous revenions, pour comprendre le sens de ce sujet, à la dimension essentielle de notre religion. Et pour ceci, il ne faut pas tout de suite se précipiter sur l'idée immédiate, comme trop souvent c'est le cas dans nos discours, sur l'idée que tout de suite, il faut que nous réglions la question du rapport entre l'islam et la société. Il y a une première étape. Et vous savez, l'islam ne déroge pas et les musulmans ne dérogent pas à quelque chose qui est de sunnat Allah, qui est de la tradition de Dieu. C'est que les bonnes réponses, elles sont déterminées par la bonne façon de poser les questions. Et que souvent, c'est parce qu'on a mal posé la question que l'on découvre de mauvaises réponses ou des réponses partielles. Et qu'avant même de poser la question du rapport de l'islam avec la société, il faut poser la question fondamentale, celle qui aujourd'hui devrait être l'objet de notre débat avec l'Occident, c'est que l'islam fondamentalement traduit une conception particulière de l'homme que vous ne rencontrez pas dans l'histoire des mentalités occidentales. Et c'est parce qu'il faut comprendre notre conception de l'homme que vous allez voir que l'islam nous dit « À partir du moment où Dieu parle à ton cœur, il y met de la lumière. Et quand tu as la lumière dans ton cœur, tu deviens une lumière dans la société où tu vis. Et c'est tout l'objet de ta vie. C'est parce que tu comprends la lumière dans ton cœur qu'il amènera de toi de la lumière parmi les hommes. Mais si tu ne cherches pas la lumière, alors tu ne t'arrêteras qu'à des mots ou à des théories. Et les théories ne font pas le croyant. Mais c'est le croyant, avec sa lumière, qui donne du sens à toute théorie. » Revenons donc à cette conception de l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala, depuis le début, nous dit une chose et nous fait comprendre une chose à chacun d'entre nous. Et vous allez voir, parce que c'est très étonnant. Je peux parler... Et je vous promets que ça se passe. En Occident, je parle toujours de la même façon, que ce soit devant des musulmans ou devant des non-musulmans, et je vous promets qu'ils comprennent très bien ce que je dis, parce que ce que je dis n'est rien d'autre qu'une chose que nous ressentons tous tellement. Il y a du naturel dans ce que l'islam nous dit. Après des années d'études, un historien des religions qui s'appelle Mircea Eliade dit « Nous sommes dans l'obligation de reconnaître, écoutez bien, des années d'études sur toutes les religions et spiritualités du monde avec des volumes de plusieurs dizaines de volumes écrits par cet homme. » Il termine en disant, après des années de méditation, il dit « Nous sommes dans l'obligation de reconnaître que le religieux participe de la structure de la conscience humaine. » Vous savez ce qu'il dit ? Il dit en d'autres termes qu'il y a dans la conscience de l'homme quelque chose qui l'oriente vers une puissance supérieure. Et dans le verset que nous connaissons, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'avait dit avant l'étude. Quand il nous dit qu'il a pris des reins d'Adam, toute sa descendance, et qu'il les a fait témoigner. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى. Quand il a pris toute la descendance des reins d'Adam et il l'a déployé, il leur a dit: est-ce que je ne suis pas votre Seigneur? Ils ont dit: certes, nous l'attestons. La conception fondamentale de l'homme en islam, de l'être humain en islam, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le cœur de tous les êtres humains, de tous les êtres humains, de tous, même celui qui peut te regarder droit dans les yeux et te dire « je ne crois pas en Dieu », il a mis dans son cœur une étincelle. La différence entre celui qui croit et celui qui ne croit pas, c'est que celui qui croit est revenu à la source, alors que celui qui ne croit pas, à la source qui est voilée. « Khatamallahu ala qulubihim » Dieu a mis un sceau sur leur cœur. Ce que je viens de dire en 2 minutes est un bouleversement radical dans toute l'histoire de la philosophie occidentale. Parce que dans la philosophie occidentale, on nous raconte et on nous dit qu'en fait la foi, elle vient après la raison. Alors que l'islam nous dit, et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, la lumière est avant, l'obscurité est après. La foi précède. C'est qu'un, ton cœur est voilé. Et il faut que tu reviennes à ce qui est tout au fond de ton cœur pour trouver la lumière. Tu n'as rien à rajouter, tu dois retrouver. Alors qu'Albert Camus nous dit, quand tu as terminé de réfléchir, il faut que tu fasses un saut pour croire. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que tu commences par croire pour bien savoir réfléchir. La foi est au cœur de ton cœur. Elle est la lumière. Et je vous promets que si nous les musulmans, nous avions simplement compris ce message, nous parlerions différemment aux non-musulmans. Parce qu'on comprendrait qu'au moment où on parle à un non-musulman, on n'est pas en train de lui dire quelque chose de nouveau, on doit lui dire quelque chose d'ancien. On doit le faire revenir à quelque chose, on ne doit pas rajouter quelque chose. Si je te parle de la foi, je te rappelle ce que tu as oublié, je n'ajoute rien à ce que tu n'as pas. Si vous avez compris ce message fondamental de notre spiritualité, vous devenez alors quelqu'un qui peut toucher les cœurs parce qu'il rappelle ce qui est déjà à l'intérieur de toi, même si tu ne le sais pas. Cette conception de l'homme, elle nous dit fondamentalement qu'il y a à l'intérieur de nous une lumière et que cette lumière, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui en décide. Il décide de l'allumer comme il décide de l'éteindre. À tous ceux qui diront « je ne crois pas », il nous est dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis un sceau sur leur cœur, qui est littéralement en arabe le sens de « kof ». « Kof », ça veut dire « voilé ». Ça veut dire la dimension du voile sur le cœur. Raison pour laquelle, quand nous utilisons le terme « mécréant », nous devrions faire attention. C'est une mauvaise traduction française du terme « kofar ». Très mauvaise traduction. Et d'ailleurs, quand vous parlez à quelqu'un qui croit en quelque chose et vous le traitez de mécréant, qui ne croit pas, vous faites un contresens. Mais vous pouvez dire à quelqu'un kufa, kefir, qui veut dire négateur, qui a le cœur voilé. avec une dimension très très étonnante quand on pose une question à un musulman qui ne croit, quelqu'un qui ne croit pas, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala utilise le cœur malade? Fi qulubihim marad. Il y a dans leur cœur une maladie. Pourquoi malade? C'est parce que ne pas croire, c'est justement un dysfonctionnement de la santé première. C'est que quand tu as le cœur sain et qui n'est pas malade, tu reviens à l'origine et tu crois. Mais quand ton cœur est voilé, il devient malade. La maladie du cœur nous indique où est la santé. Et la santé, elle est de revenir à l'origine. L'islam nous dit ce chemin, il nous dit à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur de tous les cœurs de la terre, et à l'intérieur de chacun d'entre nous ici, il y a une lumière. Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui l'allume. Mais ensuite, de la même façon qu'il est celui qui l'allume, au moment où il a mis l'étincelle dans le cœur du croyant et de la croyante, il lui donne la responsabilité de l'entretenir. Je mets la lumière, mais tu es responsable de son entretien. Tu es responsable de faire en sorte que cette lumière, elle soit vivante. Et pour ceci, il nous a beaucoup aidés. Il a mis une rahma, une miséricorde. Il a d'abord mis à l'intérieur de nous quelque chose qui aspire presque naturellement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute l'histoire des civilisations nous montre que toutes les communautés, tous les hommes aspirent à cette réalité-là. Et vous pouvez vous dire, mais le frère Tariq, depuis qu'il nous parle, il ne nous parle pas du sujet. Je ne fais que te parler du sujet. Je suis complètement dans le sujet. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne va pas comprendre notre responsabilité sociale. C'est que cela commence individuellement par l'entretien de la lumière que tu as dans le cœur. Et la première des choses que tu as à faire, si déjà aujourd'hui, devant Dieu, tu peux dire « Je crois en Dieu », remercie-le d'avoir mis de la lumière dans ton cœur. Raison pour laquelle le prophète, quand il se retourne vers Ibn Abbas, un jeune homme, il est très jeune, il lui dit « Dis après chaque prière, dis après chaque prière, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati. Dieu, aide-moi à me souvenir de toi, à te remercier et à parfaire mon adoration. » Il lui apprend la dimension de cette présence à Dieu qui est effectivement de reconnaître qu'à l'intérieur, il y a la foi. Et cette foi, elle est cet acte par lequel nous reconnaissons la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous reconnaissons qu'il y a un lien avec lui et qu'il y a une lumière. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des éléments pour pouvoir la protéger, cette lumière. Deux choses. D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une première chose que les savants ont appelée dès le Moyen-Âge. Très très tôt. Ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit une chose qui est très très importante. Il nous dit l'une des principales façons d'entretenir ta foi dans ton cœur, c'est d'observer le monde. Et cela s'appelle El Kitab El Manshur, le livre déployé. Le livre déployé, c'est le livre du monde. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. À Dieu appartient tout ce qui est dans les cieux et dans la terre. Et au moment où tu as la lumière dans ton cœur, il y a une première dimension qui va changer toute ta vie. Si tu crois en Dieu, tu regardes le monde différemment. Le monde n'est pas un monde d'éléments, il est un monde de signes. Et je vous promets que quand vous dites ceci aujourd'hui en Europe, on vous écoute. Parce qu'aujourd'hui, on a une formule en Europe qui s'appelle le désenchantement du monde. Vous savez ce que c'est le désenchantement du monde? C'est l'idée que le monde est devenu un objet de maîtrise, de pure maîtrise technologique, et que nous n'avons jamais ça en islam. Nous avons en islam un principe qui est l'écologie avant l'écologie. Ce n'est pas une écologie de la catastrophe, c'est une écologie du principe premier. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit « Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim ». Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes. Mais dans les horizons, c'est sur la terre. Regardez autour de vous. est la première des choses que nous avons à travailler personnellement. Et quand vous commencez par cette spiritualité-là, c'est de regarder le monde différemment. Et la question parfois que j'ai envie de poser à tous ces musulmans qui parfois s'agitent à vouloir montrer qu'ils sont musulmans, c'est que parfois on a envie de le dire, mais montre-moi que tu es musulman par ta façon de regarder le monde, par ta façon de regarder les éléments, par ta façon de regarder la nature autour de toi, par la façon dont tu traites les animaux. Le prophète, alayhi salam, envoie une délégation dans une situation de combat. Et une situation de combat, c'est qu'il est en train d'envoyer des gens en leur disant, attention, vous allez peut-être mourir. Et vous savez ce qu'il leur dit au moment où il les envoie dans une situation de combat? Il leur dit, vous ne toucherez pas, bien entendu, à tous ceux qui ne sont pas dans le champ de bataille. À savoir, vous ne toucherez pas aux personnes âgées, vous ne toucherez pas aux femmes, vous ne toucherez pas les enfants, vous ne toucherez pas les arbres fruitiers, vous ne toucherez pas les animaux. Il dit, vous ne toucherez pas tout ce qui n'a rien à voir avec une situation de conflit, et il va jusqu'à leur rappeler, tu vas peut-être perdre la vie, mais n'oublie pas de respecter la nature. N'oublie pas de respecter l'animal. Or aujourd'hui, 1999, des musulmans ont compris qu'il y avait une viande qui était halal, celle par laquelle on l'égorge et on dit Bismillah, Allahu Akbar. Alors c'est vrai, il y a une viande halal dans la façon dont on a sacrifié l'animal, c'est vrai. Mais n'y a-t-il pas du halal à savoir comment tu l'as traité avant de le sacrifier? Et parfois vous voyez des musulmans qui se sont arrêtés à comprendre le seul fait de savoir comment on le sacrifie mais qui maltraitent l'animal. Alors que le prophète Hassan a dit, tu dois être tellement attentif à l'animal que tu ne dois même pas lui montrer le couteau avant même de le sacrifier. Et quand vous voyez certains de nos frères et même certaines de nos sœurs, de la façon dont ils traitent l'animal avant de le sacrifier, vous avez envie de leur dire, ne garde pas la règle en oubliant l'esprit, parce que la règle n'a de sens que si tu as respecté l'esprit. Respecte l'animal. Cette dimension de la spiritualité musulmane qui est la nôtre, si vous voulez changer l'image de l'islam dans une société comme celle de la Côte d'Ivoire, elle commence exactement là. À ce niveau d'intensité de spiritualité qui consiste à comprendre que tu commences à être un véritable musulman et une véritable musulmane dans ta façon de regarder le monde et de le respecter. Parce qu'il y a des signes dans ce monde. Et notre frère vient de nous lire Sourate al-Rahman. Le prophète al-Salam disait de cette sourate qu'elle était la fiancée, Arusat al-Qur'an, c'est-à-dire la belle, la belle sourate du Coran, fiancée. Et il nous a dit une chose qui est vraiment très, 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 très importante, parce que c'est vraiment la clé. Moi, je suis parfois excédé de tous ces discours théoriques sur l'islam, quand il n'y a plus de cœur, il n'y a plus cette compréhension fondamentale de ce message. Parce que c'est comme ça qu'on commence à changer une société, quand on a le cœur avec la lumière dans le regard. Quand il nous est dit « Et shamsu wal qamaru bi husban » Ce que vous avez médité, ces deux versets. Le soleil et la lune sont selon des temps déterminés. Alors, ce moment-là, il nous parle comment? Il nous dit, avec ton œil physique, tu vas voir que le soleil et la lune sont de façon déterminée. C'est vrai, scientifiquement, tu vas le savoir. Il nous parle donc à l'œil physique, n'est-ce pas? Et avec tous les éléments et toute la technique, nous saurons que c'est vrai, puisque aujourd'hui, la science nous dit que c'est vrai. Mais il y a une chose que la science ne nous dira jamais. Jamais. Que l'étoile et l'arbre se prosternent. Il n'y a pas un traité de science qui te le dit, si ce n'est la science de ton cœur. Si c'est le savoir de ton cœur que tu saches que dans cette façon dont l'étoile est et que l'arbre est, il y a un signe, il se prosterne, mais tu ne comprends pas leur prosternation. Ça, c'est la spiritualité qui est. Dès que tu as la foi dans le cœur, tu as une nouvelle façon de regarder le monde. Et je n'ai pas besoin de faire beaucoup de théories, finalement, que de demander à chacune de mes sœurs et à chacun de mes frères, est-ce que le fait de dire « La ilaha illallah » change ton regard sur le monde? Est-ce que tu vois vraiment les signes ou est-ce que tu vis comme ceux qui ont oublié Dieu, ce qui fait que tu t'oublies toi-même? La takunu kalladhina nasu Allah fa ansahum anfusahum. Ce sont des versets simples qu'il faut se répéter souvent, mais ils disent tout. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu. Ils se sont oubliés eux-mêmes. Et la réalité par rapport à ce monde, c'est que tout de suite après la foi, il y a une dimension qui apparaît. Être musulman, c'est porter la lumière dans son cœur et c'est développer quotidiennement une nouvelle façon de voir le monde. Une façon de voir. Et de comprendre qu'on doit respecter tout ce que Dieu a créé. Mais ce n'est pas notre cas aujourd'hui. C'est tout juste si tu respectes ton frère. C'est tout juste si tu respectes ta sœur. Et en même temps, par rapport à la nature, nous recevons des leçons sur la façon de traiter les animaux et la nature par des associations d'écologie, alors que tout l'enseignement de l'islam, il est fondé sur ce respect fondamental. Et pas quand il y a une catastrophe, à tout moment. Comme par exemple, cet homme qui est en train de faire ses ablutions dans un fleuve. L'eau, elle court, il est devant un fleuve et le prophète salam de lui dire de ne pas gaspiller l'eau. Mais l'eau coule. Mais ne gaspille pas l'eau, même si elle coule. Parce que toi, tu ne dois pas attendre qu'il n'y ait plus d'eau pour ne plus la gaspiller. Tu es écologiste par principe, non pas à cause des catastrophes. Quand tu te souviens de Dieu par rapport aux éléments, tu fais très très attention. Mais si tu l'oublies, alors tu gaspilles l'eau. Tu gaspilles l'électricité, tu es un gaspilleur. Et il n'y a pas de gaspillage en islam. Ni de mauvais traitement des animaux. Et là, je vous promets, je sortais aujourd'hui. Aujourd'hui, ça m'est arrivé aujourd'hui où j'ai eu un frisson. Je sortais de la prière du vendredi, on était dans la voiture. Et on passe à côté d'un coin comme ceci. Et j'ai vu comment des animaux étaient mis sur le bord de la route. Prêts à être sacrifiés islamiquement, mais maltraités. Et pas islamiquement traités. Ils étaient vivants et traités de façon non islamique, mais ils allaient être sacrifiés islamiquement. Est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est notre message? Je vous pose une question sur les animaux parce qu'il faut que nous revoyions tout ça. Ils vont être des exemples de cette façon de traiter les animaux. Et ça m'inquiète, cette façon de rester par rapport à l'islam aux éléments du seul principe littéral et d'oublier la profondeur spirituelle. Première dimension donc de la conception islamique de l'homme, une foi qui est en nous. Deuxième dimension de la conception islamique, une façon de voir. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il nous montrera des signes dans les horizons et en nous-mêmes, jusqu'à l'intérieur de nous-mêmes. Que si chacun d'entre nous prend un petit temps dans sa vie quotidienne, surtout aujourd'hui, 1999, les choses sont très rapides, on est très occupés. Nos journées passent très vite. Nous-mêmes, nous sommes tout juste arrivés ici en Côte d'Ivoire qu'il faut déjà commencer à penser au fait de repartir après-demain, Inch'Allah. La vie est comme ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, je vais vous montrer des signes à l'intérieur de vous-même. Et quand il nous dit, il y a des signes à l'intérieur de nous-mêmes, il est en train de nous redire quoi ? Qu'il y a des signes à l'intérieur de nous-mêmes, ou il est en train de nous dire, réfléchis à l'intérieur de toi-même et tu trouveras les signes que j'y ai mis. Nous invite à une méditation personnelle. Qui d'entre nous aujourd'hui, parlant tellement d'islam, prend le temps d'aller voir à l'intérieur de son cœur quels sont les signes qui lui rappellent Dieu? Pas suffisamment. Même la prière qui devrait être ce moment de grande méditation est pour certains d'entre nous une gesticulation. Elle n'est plus un moment de méditation et de rapprochement. Il y en a même certains d'entre nous, ils disent 17 fois par jour la Fatiha, mais ils ne méditent pas 17 fois par jour la Fatiha. Ils la disent, mais ils n'y pensent pas. Cette réalité, pour nous, elle est le début de l'entrée en islam, une exigence. Et faites attention aux mots que j'emploie, parce que tous ces mots-là vont être utiles pour savoir quelle est la place de l'islam dans la dimension de nos sociétés. La troisième des dimensions, après avoir été un lien avec Dieu, est tawhid, l'unicité, une façon de voir le monde et de respecter les choses et les gens, parce qu'il faut aussi respecter les gens, et ça, ça paraît bien entendu évident qu'il faille respecter nos frères, qu'il faille respecter nos sœurs, qu'il faille respecter l'humanité en entier. Et j'aime beaucoup ce que nous apprend le Cheikh Nawawi. Et Cheikh Nawawi dit dans son charh, dans son commentaire des 40, l'Arba'in Nawawi, c'est-à-dire les 40 hadiths qu'il a composés, quand il est en train d'analyser un hadith que nous on a utilisé, vraiment nous on aime bien réduire le sens. Quand ça nous arrange, on réduit les choses pour que ce soit entre nous qu'on le comprenne. Quand il dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbuhu li nafsi. Il n'a pas parachevé sa foi, celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Eh bien, l'imam al-Nawawi dit la chose suivante, il dit « Attention à ne pas oublier el-ruwa al-insaniyya », c'est-à-dire la fraternité humaine. Aimer pour tous les hommes le fait qu'ils atteignent cette foi. N'est-ce pas? C'est ça qu'on aimerait pour toute l'humanité. Et il nous parle d'une fraternité pour tous les hommes. Ce n'est pas entre nous musulmans simplement en oubliant tous les autres, c'est aimer pour tous ce que nous avons en notre cœur, c'est-à-dire espérer pour chacun le fait d'avoir le cœur ouvert et que ce voile sur le cœur disparaisse. Eh bien, contrairement à des lectures très restrictives, l'imam al-Nawawi, rahimahullah, eh bien, il nous renvoie une responsabilité. Respecter l'humanité car Dieu l'a créée, même si nous ne respectons pas ce que font certains hommes de leur humanité. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Respecter l'humanité car Dieu a créé l'humanité, ceci est notre principe, tout en refusant ce que certains hommes font de leur humanité. Je n'aime pas ce que tu fais, mais je respecte ce que tu es, car Dieu a fait ce que tu es, mais je n'aime pas ce que toi tu fais de ce que tu es. C'est un principe fondamental, même dans vos relations avec tout votre entourage. Et quand les gens sentiront que vous les respectez pour leur fait qu'ils sont aussi créés, mais que vous refuserez ce qu'ils font eux, eh bien ils commenceront à sentir que vous les respectez. Quand on est respecté, on écoute qui nous respecte. Aujourd'hui, si notre message parfois n'est pas entendu, c'est parce que les gens ont l'impression que nous ne les respectons pas. Qu'il suffise que tu ne partages pas ma foi pour que tu sois moins que rien. Je ne te vois pas, je ne t'écoute pas, tu n'es rien. Et pourtant je suis, même si je ne partage pas ta foi. Refuse ce que je fais, mais respecte qui je suis. Façon de voir le monde et de voir l'humanité. Troisième dimension, une façon de se comporter. L'islam, c'est une façon de se comporter. Et dans cette façon de se comporter, immédiatement, quand on a dit « La ilaha illallah », quand on regarde le monde différemment, immédiatement, ça doit avoir une conséquence. « Ladina amanu wa amilu salihat ». Et ce qui nous a été dit tout à l'heure, « Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ». Ceux qui ont dit « Dieu est notre Seigneur » et ensuite qui ont choisi la voie droite. Et la voie droite, c'est la voie de l'exigence, de l'action, de l'acte qui confirme que nous avons la foi. Et alors descendent sur nous les anges. Parce que n'oubliez jamais les anges. Dans cette salle en ce moment, il y a tous ceux que l'on voit et tous les êtres que nous ne voyons pas. Et certains d'entre nous ont tendance à oublier qu'il y a des êtres que l'on ne voit pas. Comptant sur leur seule force, ils obligent Allah subhanahu wa ta'ala à plus de force. Et plus d'êtres qui ont de la force que ceux que vous voyez. N'oubliez jamais les êtres que vous ne voyez pas, ne serait-ce que celui qui est à votre droite et celui qui est à votre gauche. Parce que ceux-ci, ils sont très vigilants, ils écrivent tout. Ce que vous faites de bien et ce que vous faites de mal. Celui de la droite écrit ce que vous faites de bien et celui de la gauche ce que vous faites de mal, et ils écrivent tout. N'oubliez pas qu'il y a des êtres que vous ne voyez pas. Parce que dans le fait de savoir qu'il y a des êtres qu'on ne voit pas, ça change aussi notre façon de regarder les êtres que l'on voit. Quand vous vous souvenez qu'il y a des êtres dans la salle ici que vous ne voyez pas, vous changez votre regard sur les êtres que vous voyez. Parce que tout ceci est constitué de signes. Ça me fait toujours penser qu'on disait ceci à quelqu'un quand il faisait la prière. C'est mon père, rahimahullah, qui m'avait raconté cette histoire. Il y avait un jeune comme ceci, il dit, mais on lui parlait des anges sur la droite et sur la gauche, puis tout à coup il lui vient une question, il dit, mais quand on finit la prière, puis qu'on salue, on salue qui? Hein? À gauche, salam alaykoum wa rahmatullah, puis à droite. Et le savant, le cheikh, lui dit, quand tu salues sur la droite, tu salues les gens, mais tu salues aussi l'ange qui est sur ta droite, qui écrit toutes tes bonnes actions. Puis quand tu salues à gauche, et vous savez que sur la droite, c'est fard, oui, et sur la gauche, c'est sunna. Donc ce n'est pas une obligation, c'est sur la droite que c'est une obligation, en particulier dans le rite malikite, vous le savez. Et donc, et sur la gauche, tu salues les gens, mais tu salues aussi l'ange de la gauche, celui qui écrit tout ce qu'il y a de mal. Alors lui, il réfléchit, puis la prière d'après, il dit « Salamu alaykoum wa rahmatullah », puis il se retourne, puis il dit « Non, toi, non. » Je ne vais pas le saluer. C'est quand on est... Pensez-y, parce que moi, cette petite histoire, vous savez qu'elle m'accompagne en sachant que on est suivi quand même. Et à la trace. Une façon de se comporter. Et cette façon de se comporter... Le message de l'islam est effectivement de comprendre qu'à partir du moment où tu vois les choses différemment, tu vas voir même à l'intérieur de toi-même des choses qui sont très très importantes et vis-à-vis desquelles tu dois réagir. Et vous avez compris que je commence, avant de parler de la société, à m'adresser à chacun d'entre nous ici dans cette salle. Soyons honnêtes les uns les autres et regardez ce que nous sommes vraiment. Allah subhanahu wa ta'ala a mis une bénédiction en nous, il a mis une aspiration vers lui. Mais en même temps, il nous a dit dans Sourate Yusuf, « Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su ». Notre âme à l'intérieur, elle nous pousse, elle nous commande à faire le mal parfois. N'est-ce pas? Que chacun d'entre nous réfléchisse et observe son comportement personnel et vous allez voir qu'il y a à l'intérieur de nous des choses qui, en même temps que nous allons et nous aimons plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il a, il nous a fait habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Il a fait que nous aimions la foi et il a fait en même temps que nous soyons attirés par cet embellissement qui est dans notre cœur. Ça, c'est une rahma. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a mis à l'intérieur de nous, mais en même temps, qu'a-t-il fait? Il nous met à l'épreuve. Il nous met à l'épreuve de quoi? De nous-mêmes. Nous sommes la première épreuve pour nous-mêmes. Pour quatre raisons en tout cas. La première des raisons, c'est une chose simple, c'est le « je ». Nous nous aimons bien. Il n'y en a pas un d'entre nous et pas une ici dans la salle qui peut dire « Non, moi je ne m'aime pas du tout. » On s'aime bien et parfois on s'aime trop. Et parfois on n'aime que soi, avant tous les autres. Cet amour, Anna, c'est ce qui avait été le propos de Iblis. Quand il est, c'est un enorgueilli. Anna, khayrun minhu, je suis meilleur que lui. Et chacun d'entre nous sait que ce jeu à l'intérieur, c'est une véritable prison. Qu'on peut vraiment, avec ce jeu, se perdre. Parce que c'est là que commencent vraiment les attitudes qui ne sont pas honnêtes, les attitudes qui sont les attitudes de prétention, les attitudes de vanité, le jeu. Et il y a à l'intérieur de nous cette dimension qui nous pousse vers l'affirmation du jeu. Et il y en a certains, même quand il parle, il veut te donner son opinion, il commence à parler et il dit « Moi, je pense que... Moi, je... pense que... » Il n'a même pas commencé à penser qu'il a déjà dit deux fois « moi ». Il faut faire attention, parce que ces formules « moi je pense que... » Il y en a qui sont, ils vont plus loin encore. « Moi je pense personnellement que... » On a compris que c'était toi qui pensais. Cette indélicatesse du verbe. Parfois ça nous arrive à tous, mais il faut faire attention à ces petits détails du verbe qui te prennent ton être et qui te mettent en avant comme ceci. Et le « je » est... Ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas dire « je », non, il faut le dire. Mais il y a des façons de dire « je ». c'est une façon de le dire, et surtout c'est une façon d'être vigilant. Cette dimension de l'égoïsme aussi que nous avons, et que chacun d'entre vous, tous ceux qui d'entre vous ont eu des enfants, se rendent compte de cet égoïsme qui est le « c'est à moi ». Oui, nous avons ceci, et chacun d'entre nous, on va énumérer un certain nombre de nos défis personnels. Le « je », l'égoïsme, l'ego, qui est « je veux les choses pour moi ». Chacun d'entre nous connaît également, naturellement, quelque chose qui est la colère. Et vous le savez bien. Certains la maîtrisent mieux que d'autres, mais tous nous la connaissons. Et le prophète Salam nous avait dit, ne te mets pas en colère. La colère est un des défis. L'autre chose également, la violence. Nous ne sommes pas nés calmes. La majorité d'entre nous, on apprend à être calme. Il y en a qui sont plus calmes que d'autres. Mais la maîtrise de sa colère, c'est un travail, n'est-ce pas? Comme la maîtrise de sa violence. Comme la maîtrise de son égoïsme. Comme la maîtrise de cet amour de soi. Eh bien, nous naissons tous avec, à l'intérieur de nous, des dispositions. Des dispositions qui sont négatives. En même temps que nous avons une aspiration positive vers Dieu, nous avons des dispositions négatives. Qu'est-ce que c'est qu'être musulmane et qu'est-ce que c'est qu'être musulman? Eh bien, c'est exactement ce travail de la maîtrise de ces dispositions. Au même moment que je mets en évidence qu'il y a la foi, puis une façon de regarder la nature, il y a une façon de se comporter. Cette façon de se comporter, elle est fondée sur un acte de libération. Il faut que tu te libères de toi-même. Te libérer de toi-même, ça veut dire de te libérer de tes propres colères, de te libérer de ta propre violence, de te libérer de ton jeu que tu mets toujours en avant, de te libérer de ta propre cupidité, de ta propre, quoi donc encore, de tes propres séductions. Parce qu'il faut que nous regardions les choses en face. Il y a parmi, dans notre communauté, un discours qui est un discours superficiel. Regardons les choses en face. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, « Zuyyina linnas hubbi shahawat min al-banin wa al-nisaa wa al-qanatir al-muqattar min al-nisaa wa al-banin min al-nisaa wa al-banin wa al-qanatir al-muqattarati » Quand il dit d'abord, il a été embelli pour les hommes. L'amour des biens, des femmes et des enfants, et puis des richesses innombrables, il nous met en évidence une chose. En même temps qu'il nous a dit dans Sourate Yusuf qu'à l'intérieur nous avons quelque chose qui nous pousse vers le mal, il nous dit dans le monde il y a quelque chose qui t'attire. Et reconnaissons que c'est une réalité, que nous y a des séductions, que nous sommes tout à fait portés en général à nous laisser aller, à nous laisser attirer par des apparences. L'apparence d'un corps, l'apparence de la richesse, l'apparence d'une maison, tout ça nous attire. Et c'est naturel. Le bon musulman n'est pas celui qui nie l'évidence, c'est celui qui maîtrise son goût pour cette évidence. C'est la lucidité, je sais. Et n'importe quelle femme ici et n'importe quel homme ne pourra jamais dire « Non, moi j'ai jamais connu ça, je suis au-delà des apparences ». Non, si tu étais au-delà des apparences, on ne te verrait pas dans cette salle, tu serais un ange. Or, tous ceux qui sont ici vivent la colère, l'égoïsme, la violence, la séduction. Et qu'est-ce que c'est qu'être musulman alors? C'est cette troisième dimension. Maîtriser toutes ces dispositions. Maîtriser toutes ces dispositions. Et c'est une façon d'être, une façon de se comporter. Cette façon d'être et cette façon de se comporter sont fondées sur une notion. Et j'aimerais ici ce soir rappeler à tous et à toutes que cette notion, il faut que vous en fassiez votre cheval de bataille, quoi qu'en disent les médias, quoi que ce mot ait été dévoyé dans la presse ou que des gens l'utilisent mal, il y a un principe essentiel en islam qui est celui de l'effort que tu fais pour maîtriser ta colère, de l'effort que tu fais pour maîtriser ta violence, de l'effort que tu fais pour ne pas te dire toujours « je », de l'effort que tu fais pour ne pas te laisser attirer par les apparences, de l'effort que tu fais pour ne pas verser dans la cupidité, de l'effort que tu fais pour être un être avec Dieu, ça s'appelle, en un mot, en un seul, il est central en islam, il jihad. Il jihad, ça veut dire l'effort, et ça c'est jihad et nafs. Toute société ou tout écrit qui voudrait nous retirer le mot jihad, eh ben nous lui dirons non. Parce qu'à côté de iman, il y a jihad. Et le jihad est central. Il est cet acte par lequel n'importe quel être humain dit à son être, je ne te laisserai pas m'emporter vers l'enfer, mais ma foi te maîtrisera pour aller au paradis. C'est ce que je veux de tout mon être. Donc notre religion est basée sur une notion centrale. Dire Dieu avec la foi, observer le monde avec la foi, maîtriser son être avec la foi, ça suppose un effort. Nous avons une religion de l'effort et de l'exigence, pas une religion de la spiritualité vague. Comme aujourd'hui, on a envie de nous faire, on est en train de nous coloniser avec une nouvelle façon de parler du soufisme. Il y a un islam, il y a dans l'islam, il y a du soufisme. Mais vous verrez que tous les soufis qui sont restés dans l'orthodoxie musulmane étaient très exigeants avec eux-mêmes. Très exigeants. Ils se levaient la nuit, ils priaient, ils jeûnaient. Et là maintenant, on est en train de nous présenter un soufisme où laisse la prière, laisse le jeûne. T'es avec Dieu 24 heures sur 24, tu n'as qu'à penser à lui comme ça. C'est un soufisme new look. C'est un soufisme contre l'islam. La réalité, c'est que c'est un soufisme contre l'islam. Alors, vous avez ceux qui vont vous rejeter en disant « Vous êtes des extrémistes, vous êtes ci, vous êtes ça. » Ils veulent un islam sans l'islam. Ils veulent un islam sans effort. Il faut que tu dises que tu crois en Dieu, c'est tout, ça suffit. Dieu, il t'aime tellement qu'il t'accepte quand tu dis « Je crois en toi. » Subhanak. Eh bien, cette réalité-là, c'est que nous avons une véritable compréhension. L'islam, c'est la notion centrale de l'effort, de la purification par rapport à tous ces défauts dont j'ai parlé, par rapport à toutes ces défaillances dont j'ai parlé, qui sont en nous et que nous connaissons, et qui est fondée sur une religion de l'exigence. En d'autres termes, la foi, une façon de voir, une façon de se comporter avec exigence. Et vous savez ce que c'est ceci ? Tout ce que je viens de décrire, c'est un formidable message de libération. L'islam te libère de tes propres défaillances. À partir du moment où tu fais ce travail personnel, d'être avec Dieu et de te souvenir de lui, de regarder le monde, de ne pas être emprisonné simplement par la présence des objets, mais de comprendre que tout ça, ce sont des signes, et dans la troisième des démarches, une façon de te comporter. Ça, c'est la lumière. La lumière passe par la reconnaissance de Dieu, la façon de voir le monde et la façon de te comporter. Nourun namshi biha finnas. C'est une lumière avec laquelle nous marchons au travers des gens. C'est ceci que devrait être notre foi. Que chacun d'entre nous, avant qu'on en vienne au défi de l'islam avec la société, se pose la question véritable de savoir, est-ce que je suis dans ce cheminement-là? Est-ce que véritablement je suis dans ce cheminement d'une foi qui est exigeante? Est-ce que je fais ce travail de lutter contre mes propres déficiences? Eh bien, ça, c'est le travail de la spiritualité. Et dès que nous rentrons dans cette compréhension de l'islam fondée sur deux piliers, l'effort, c'est une religion de l'effort, et la libération, c'est une religion qui te libère. Raison pour laquelle le prophète avait l'habitude de dire Rabbana ansurna ala anfusina. Dieu, donne-nous la victoire sur nous-mêmes, parce que nous sommes les principaux responsables de l'emprisonnement de notre être. Et bien, dès que nous avons compris ceci, il y a des déterminations importantes dans notre rapport à la société. Et c'est ce dont nous allons parler, en même temps que de vous rappeler ici pour vous, en Côte d'Ivoire, combien vous avez un travail conséquent à faire. Et je déterminerai 6 sphères dans lesquelles justement cette bonne compréhension de l'islam à partir de notre conception de l'homme va avoir une influence sur notre vie en société. Et vous attendriez peut-être que je parle immédiatement au niveau de notre rapport à la société, à nos relations humaines. Le premier défi et la première des attitudes du musulman et des musulmans au niveau de l'espace social, c'est de revenir personnellement et collectivement à la dimension fondamentale qui nous fait garder le lien avec Dieu au niveau de la société, c'est le dhikr. C'est la dimension du fait de se souvenir de Dieu dans ta vie quotidienne. Mais est-ce que vous savez que même la prière, elle sert à ça? Quand Moussa alayhi salam, Moïse, va vers Allah subhanahu wa ta'ala et lui dit « Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri. » Je suis Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que moi, adore-moi. Et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Toute personne, n'importe lequel d'entre vous, qui entre en société, dans la vie sociale, et qui veut développer son rapport à sa société, en oubliant le fait de se souvenir de Dieu, eh bien, est une personne qui va s'égarer. Si au centre de notre vie, il n'y a pas la notion du souvenir, et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné des clés pour se souvenir. La première de ces clés du souvenir, c'est la pratique de la prière. C'est une spiritualité active. Et je parle toujours dans la spiritualité de 3 dimensions de la spiritualité. Une spiritualité engagée, une spiritualité intelligente et une spiritualité active. Nous avons cette spiritualité qui doit être le cœur de notre vie. Et ceci se fait par le rappel. Raison pour laquelle, dans notre rapport à la société, il faut placer le plus possible, dans toutes les circonstances où nous pouvons, la dimension du rappel. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, nous n'avons pas de vie. Nous avons une vie. Et le rappel, ce n'est pas simplement 5 fois par jour quand on va à la mosquée ou 5 fois par jour quand on se met à prier. Le rappel, c'est dans tout ce que tu fais quotidiennement. Le rappel, c'est effectivement quand tu vas commencer à manger, de dire la Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ou de dire l'invocation qui te permet de manger. Quand tu vas faire un travail, pourquoi est-ce que tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim quand tu commences à manger, mais quand tu es dans ton bureau et que tu vas faire un travail, tu oublierais de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Ou quand tu es médecin, ou quand tu es ingénieur, ou quand tu es professeur, tu oublierais de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mais le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est la lumière de toute ton activité. Il sacralise toute activité, car la différence qu'il y a entre notre conception du sacré et du profane par rapport à la conception qu'il peut y avoir dans d'autres civilisations, c'est que dès que tu as dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tout acte que tu fais en te souvenant de Dieu devient sacré. Donc tu as placé le souvenir au cœur de ta cité, au cœur de ta vie, au cœur de ton quotidien. C'est pas uniquement la prière. La prière, c'est uniquement pour te rappeler entre deux moments qu'il ne faut pas que tu l'oublies dans les parenthèses de ta vie. Il ne faut pas que tu l'oublies. C'est pas j'y pense, puis ensuite j'oublie jusqu'au moment où je vais y repenser. C'est j'y pense pour mieux m'en souvenir jusqu'à la prochaine prière. La dimension donc du dhikr. Et il n'y a pas de dhikr sans discipline. Et des fois, vous avez envie de vous arrêter auprès de frères et de sœurs qui ont envie de changer la société. Ils disent, nous sommes musulmans, nous avons quelque chose à apporter, nous voulons changer la société. Tu regardes leur vie, il n'y a pas de discipline. Ils ne sont pas disciplinés. Il n'y a aucune exigence. Ils se mettent à prier quand ils se réveillent, et quand ils se réveillent, c'est à 11h du matin. Ils ont passé la nuit devant la télévision, ils se réveillent à 11h du matin. Ils veulent changer le monde, ils se réveillent à 11h du matin, tout le monde travaille depuis 8h. Et quand ils ont un rendez-vous, c'est 1h30, 2h trop tard. Et ce que nous aurions dû prendre de l'Occident, qui est effectivement très islamique, c'est la ponctualité. Non, nous on prend les films et on laisse la ponctualité. C'est la réalité. On prend ce qui est mauvais, on laisse ce qui est bon. Eh bien, cette réalité de l'exigence dans ta vie, si tu veux faire un travail de spiritualité, il faut que tu aies de l'exigence. Et la première exigence, c'est avec nous-mêmes. C'est là où on va devenir exigeant aussi par rapport à notre entourage. On peut devenir exigeant avec les autres quand on commence à l'être avec soi-même. D'ailleurs, c'est très étonnant, c'est un secret très très important. C'est vraiment... Souvent, je me suis posé la question de me dire, subhanallah, le prophète, alayhi salam, comment se faisait-il qu'il était tellement exigeant avec lui et tellement pardonneur et généreux avec les autres? En fait, je crois que peu à peu, je commence à comprendre un tout petit peu. En fait, plus on est exigeant avec soi-même, moins on est dur avec les autres. Alors que celui qui n'est pas exigeant avec lui-même, souvent, il commence à être dur avec les autres. C'est un signe, quand même. Dès que tu vois quelqu'un, il a toujours de l'exigence vis-à-vis des autres, on peut se poser la question de savoir s'il a quelque exigence vis-à-vis de lui-même. Et le prophète, sallam, avait telle exigence. Tout lui était pardonné, il était tellement doux avec les autres. Mais ne généralisez pas, parce qu'il y avait... Vous savez, quand je dis des choses comme ça, il ne faut pas tout généraliser. Il y avait un être, il était très très exigeant, je vous promets qu'il était très exigeant avec lui-même, c'est Omar, radiallahu anhu, qui relativise ce que je viens de dire. Il était exigeant avec tout le monde, lui. Et ça fait du bien, parfois, des êtres exigeants avec tout le monde. Deuxième dimension de notre rapport à la société, déjà le dhikr, cette exigence personnelle, ce travail à l'intérieur. Et vous voyez, je ne commence notre rapport à la société qu'à partir de la spiritualité. Et vous savez, aujourd'hui, ce qui est mon plus grand, ma question la plus importante par rapport au monde moderne, mais je le vois aussi ici en Côte d'Ivoire, c'est comment préserver la spiritualité dans une société telle que celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait? Bien, je crois qu'il faut que nous ayons une exigence très forte. Deuxième dimension de ce rapport de l'islam avec la société, c'est une dimension fondamentale. C'est celle de s'éduquer et d'éduquer. S'éduquer. Et aujourd'hui, je crois que chacun d'entre nous doit se poser la question. Hommes et femmes. Parce que là-dessus, talabul ilm, faridatun ala kulli muslim wa muslima, la demande de science est une obligation pour tout homme et toute femme, tout musulman et toute musulmane. C'est pas uniquement... Alors, il ne faut pas que nos sœurs, elles veuillent revendiquer des droits quand ça les arrange, mais quand il s'agit de faire un effort, on n'est plus laxiste. On est à égalité sur l'effort aussi. Et je suis un tout petit peu inquiet de voir beaucoup trop de nos sœurs vouloir des droits sociaux et peu d'exigences personnelles. Et ça se voit même avec la prière. Il y a un tout petit peu de laisser aller dans la prière et dans sa ponctualité. Même dans la prière du matin. Et je ne sais pas dans quel texte vous avez lu que l'homme devait se réveiller à 5 heures pour prier le fajr et la femme dormir. Je ne crois pas qu'il y ait texte là-dessus. Wallahu a'lam wa a'lam. Et donc, en l'occurrence, ici, nous avons une exigence d'éducation personnelle. Et cette éducation, c'est le temps que nous donnons personnellement à nous réformer. Se former en islam, c'est se réformer, c'est se purifier. C'est un travail de purification personnelle. Et ça aussi, si nous voulons avoir un rapport à la société, dans notre société, ce que nous voulons, c'est une éducation qui réforme, qui purifie. Et nous avons un grand, grand, grand chantier pour l'avenir. C'est celui de l'éducation, d'une éducation adaptée à la circonstance contemporaine. Comment est-ce que nous allons aider nos jeunes et nous-mêmes, parce que la formation, c'est une formation continue, depuis le berceau jusqu'à la mort. Cette formation qui consiste et qui demande à ce que chacun d'entre nous fasse cet effort de teskiya. Lituzakihim, est-il dit dans le Coran, pour que tu les purifies au moyen du Coran, pour que tu les purifies au moyen de la hikma, de la sagesse, de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son exemple. Ce que nous avons à faire, c'est un travail de réforme et de purification personnelle. Alors bien entendu, cela passe par l'apprentissage du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la différence qu'il y a entre quelqu'un qui possède du Coran et quelqu'un qui n'en possède pas, c'est la différence entre le vivant et le mort. La dimension d'apprentissage de l'exemple du prophète sallam et des hadiths, c'est vrai, mais il y a également, beaucoup plus généralement, toute l'éducation. Et cette éducation chez nous, elle est globale, elle est globalisante. Elle éduque ta tête, elle forme ton cœur, elle se transforme, elle transforme ton comportement. Elle est une initiation du cœur, une formation de l'intelligence et une façon de se comporter. Cette éducation, une façon de se comporter, il faut que nous la développions. Et chacun d'entre nous aussi peut se poser la question de savoir combien de temps tu donnes par semaine à ton éducation personnelle, à ton éducation spirituelle, à ton éducation intellectuelle, à ton éducation islamique. Et ça va jusqu'au comportement. Ça va aussi, à partir du comportement, sur le vêtement. Sur le vêtement, combien sont en train de nous parler d'une spiritualité qu'ils ont dans le cœur et négligent leur façon de se vêtir, négligent leur façon de se comporter socialement. Tout ça est à véritablement développer. L'éducation aussi dont nous parlons, l'éducation islamique dont je suis en train de parler, qui est le fondement de notre rapport à la société, c'est une éducation qui doit être fondée également sur deux piliers qui sont fondamentaux, que nous sommes en train de négliger dans notre communauté. La première des choses, c'est l'esprit critique. Le développement dans la communauté musulmane de l'esprit critique. C'est-à-dire d'écouter une information, de l'analyser et d'en faire un débat critique. Nous sommes beaucoup trop gentils dans ce que nous acceptons d'entendre et beaucoup trop gentils dans la paresse que nous acceptons de développer. Et aujourd'hui, il y a effectivement un manque d'esprit critique dans les communautés musulmanes. C'est clair. C'est « sami'na wa ata'na ». Oui, il y a ceci dans le Coran. J'ai entendu et j'obéis. Mais il y a dans l'islam, par rapport à toutes les choses qui concernent les hommes, l'idée de l'esprit critique. Et le prophète est allé jusqu'à l'appliquer dans une situation de guerre, dans Ghazwat Uhud. Il discutait avec des gens. Et même, il se soumettait à l'avis majoritaire. On discutait, on s'opposait à lui, même certains ont eu peur, se sont dit peut-être qu'on est allé trop loin. L'esprit critique. Deuxième élément, c'est la culture du dialogue. Et là également, la culture du dialogue qui manque énormément dans nos familles. Quand vous voyez des jeunes, ils vont dans les écoles, même ici en Côte d'Ivoire, on leur apprend à discuter, ils rentrent à la maison, ça ne discute plus. Si à l'école tu discutes et qu'à la maison tu ne discutes pas, qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que tu vas aller chercher ta liberté? Ben là où on discute. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Si on ne discute pas à la maison, si quand le papa est là ou quand la maman est là, tu obéis, ou alors que les discussions se font et le repas se font avec une chose qui commence véritablement, moi, à m'effrayer, c'est l'omniprésence de cette télévision jusqu'au moment où on mange. Au moment où on est en famille, il y a une télévision qui est allumée, eh bien, vous n'avez pas de culture du dialogue là où la télévision est faite pour attirer votre attention. Et qu'on ne peut pas faire un rapport de l'islam authentique avec sa société, avec l'omniprésence de quelque chose qui nous vole notre esprit. Cette gestion-là, il faut l'avoir dans toutes les demeures. Et quand on ne se préoccupe pas du dialogue à la maison, n'attendez pas qu'une société ou des musulmans soient respectés pour leur capacité à entrer en discussion avec leur environnement. Ils vont apprendre à discuter à l'école, et puis finalement, moi si je suis un enfant normal, je vous promets, si je suis un enfant normal et que quand je rentre à la maison, on ne discute pas chez moi, et que quand je vais à l'école, ou quand je sors, que je vois des amis, avec eux on discute, si je suis normal, je vais chez ceux avec lesquels on discute. Je ne dirai rien à la maison parce que j'ai compris les règles du jeu et je vais discuter à l'extérieur. Et c'est normal que ce soit comme ça. Donc il faut cette éducation au dialogue. Et ça demande à beaucoup de parents de revoir leur méthode. À énormément de parents de revoir leur façon d'être à la maison. Parce que s'il s'agit que tu sois très performant au travail, il y en a certains, ils sont de 6h à 6h du soir, d'une performance incroyable, ils tiennent leur bureau, ils tiennent leur secrétaire, ils tiennent leur collaborateur, ils discutent, ils rentrent à la maison, je suis fatigué. Mais papa, je suis ton fils. Mais papa, je suis ta fille. Si chaque fois que tu rentres, tu es fatigué et que tu discutes avec le monde entier, mais que tu ne discutes plus avec moi, je vais aller discuter ailleurs, moi. C'est la même chose pour la maman. Parce que parfois, les mamans, dans cette gestion de ce qui se passe à la maison, c'est le désordre complet. Comme on a le temps, on fait tout au dernier moment, on est fatigué, et puis il n'y a plus de dialogue. L'éducation. rapidement, puisqu'il faut terminer, la troisième des dimensions sur lesquelles nous avons à travailler aussi, et que l'islam nous dit, tu dois, un, te souvenir, deux, tu dois t'éduquer et éduquer au dialogue, à la présence sociale, trois, tu dois agir socialement. C'est l'action sociale. Inna Allah ya'muru bil 'adl. Dieu commande la justice. Et nous avons, de ce point de vue-là, un véritable travail à faire. Quand le frère nous dit tout à l'heure, effectivement, ce que vous pouvez voir dans la société ivoirienne, avec des jeunes musulmans et des jeunes musulmanes, et même des personnes qui ne sont pas musulmanes, la négligence que nous avons par rapport à cela est une négligence coupable. Il n'y a pas d'islam sans sentiment de solidarité. C'est tellement vrai que la solidarité est un droit du pauvre et un devoir du riche. En islam, c'est ça, n'est-ce pas? C'est un droit. C'est-à-dire, c'est un droit reconnu. C'est pas... n'a pas cette espèce d'idée de la charité où tu me dois quelque... avec un rapport de condescendance. Non, c'est un droit que j'ai sur toi. Dans l'argent que tu gagnes, il y a un droit pour moi, il y a un devoir. Devant qui? Devant le Créateur des cieux et de la terre. Cette dimension est une dimension sur laquelle nous devons véritablement revenir. Et vous voyez comment, de la conception de l'islam dont j'ai parlé au début, nous venons à un rayonnement social. Un rayonnement social de quelqu'un qui a compris, à partir du moment où il a la foi, qui regarde le monde différemment, qu'il change son comportement et qu'il a une façon d'être, une façon de voir, une façon d'être avec Dieu, eh bien il commence à avoir une différence d'attitude sociale. En commençant par se souvenir de Dieu, en continuant par s'éduquer et en continuant encore par donner. Donner par devoir, donner par bonté, donner par générosité. Et vous avez compris, j'ai commencé par dire par devoir, puis ensuite par bonté et par générosité permanente. Voilà ce que c'est que le musulman socialement. Et il y a trois domaines essentiellement sur lesquels vous avez à travailler ici, par exemple. Nous avons ce problème partout dans le monde. Le premier élément, c'est effectivement la pauvreté. La pauvreté est et doit mobiliser notre énergie. Il donne à manger à qui? Pour Dieu et uniquement pour Dieu. À qui? Aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Il donne à tout le monde. Et c'est uniquement pour le visage de Dieu qu'il le fait. Voilà ce que sont les musulmans. Mais c'est ça qui nous distingue. C'est ça qui distingue la communauté musulmane. C'est une façon d'être. Quand il est dit « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas » Vous êtes la meilleure des communautés. C'est uniquement comme ça, par le sang? Mais non. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Regardez comment dans le verset, il commence par ce que les hommes voient et ce que Dieu sait, il termine avec. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ça, vous le faites, c'est Dieu qui le sait. Mais votre comportement est visible par ce que vous montrez, du fait que vous promouvez ou vous promulguer ce qui est bien et que vous opposez contre ce qui est mal. La pauvreté. L'autre élément également, l'analphabétisme. Et vous avez dans votre société un grand chantier contre lequel il faut lutter, l'analphabétisme. Un musulman et une musulmane aujourd'hui qui n'a pas les moyens de lire et d'écrire se voit voler ses droits. On lui manque. On manque à ses droits. Et puis il y a une autre chose qui est l'exclusion. Vous le savez aujourd'hui, beaucoup de vos sœurs sont dans des situations gravissimes de prostitution. Vous savez également que beaucoup des frères et des sœurs sont dans des situations de drogue et vivent des situations en termes de relations physiques et de relations sexuelles en dehors du cadre du mariage. Et ils sont exclus, ils ne seront pas là ce soir. Même s'il y en a ce soir qui ne sont pas toujours tout droit avec Dieu dans leur comportement. N'est-ce pas? Eh bien, toute cette exclusion, il nous est demandé devant Allah SWT d'être présent socialement. Au nom de la lumière que tu as dans le cœur, il faut avoir un comportement au niveau de ta société. Lutter contre les dérives sociales. L'action sociale est l'une des dimensions les plus importantes de notre présence. Rappel, L'éducation et l'action sociale sont déterminantes. Mais où nous sommes? Comment se fait-il qu'en Afrique, par exemple, ceux qui font des associations et qui travaillent majoritairement dans le travail social, ce soient des associations chrétiennes, des associations qui ne sont pas musulmanes? Et quand vous demandez aux musulmans, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Ils disent, non, mais nous, c'est intégré. C'est intégré à la zakat. Oui, mais qui la paye maintenant? Où elle est la zakat? Ah, mais parce qu'on ne va pas venir vérifier dans les porte-monnaies. Il faut payer la zakat et il faut même faire des associations qui vont aider. Cette association dont on vous parle, c'en est une, et il faut que ça se multiplie. Il faut qu'il y ait une présence partout. Qu'il y ait une présence, par exemple, de nos sœurs. Qui va parler à nos sœurs qui sont aujourd'hui en train de se prostituer? Si nous, on les laisse. On va laisser qui leur parler? Aller leur donner un tout petit peu d'argent, leur dire, tu vois, moi je viens de cette tradition qui est une tradition X ou Y, et moi je t'oublie pas quand ta communauté t'oublie. Qui va faire ce travail-là? Égoïste, au point de penser que nous sommes sur la voie droite et les autres sont égarés, nous laissons les gens de notre propre religion se perdre et nous ne sommes pas présents. Je pense que chacune doit se poser la question de savoir qu'est-ce que tu donnes à ta sœur? Qu'est-ce que tu donnes à ta sœur qui aurait besoin simplement peut-être parfois d'une présence? Et de pouvoir aller vers une jeune femme qui fait le pire avec son corps en lui disant « Je n'aime pas ce que tu fais, mais je veux respecter qui tu es. Je vous promets que vous changez des cœurs avec l'aide d'Allah ce moment-là, parce que vous êtes présente. » Et des frères qui feraient la même chose. Combien on en a vu? Combien on en a vu qui ont fait que des jeunes arrêtaient de se droguer parce que tout d'un coup, quelqu'un était attentif. Être attentif. Troisième des dimensions, notre foi développe pour chaque musulmane et chaque musulman un comportement politique exemplaire. Si dans toute la République de Côte d'Ivoire, vous avez des gens qui pourraient en arriver à mentir pour avoir le pouvoir, eh bien, vous, en tant que musulmans, au nom de ce que nous avons dit tout à l'heure, que notre islam change nos comportements, nous devons être des citoyens honnêtes. Nous devons réhabiliter la politique là où tous la trahissent. Celui qui veut aller au pouvoir, ou celui qui viendrait, comme nous avons ceci en Europe, il y en a qui viennent vers nous, ils nous disent, dis donc, il faudra peut-être penser à voter pour nous, puis on va peut-être négocier une mosquée. Pardon. Ma voix contre une mosquée? Mais quelle est la valeur d'une mosquée que tu me donnes si tu achètes ma voix? Comment est-ce que je peux prier là-dedans? Eh bien, je veux dire qu'à un moment donné, il faut que les musulmans, là où ils se trouvent, réhabilitent la politique honnête. Et vous savez ce que c'est la politique honnête? C'est que devant n'importe quelle personne qui vient demander une voix, vous avez deux choses, parce que vous vous souvenez d'une chose que le prophète sallam a dite. Il nous a dit une chose, celui d'entre vous qui met à un poste quelqu'un dont il sait qu'il n'en a pas les compétences, trahit Dieu, le prophète et toute sa communauté. À partir d'un certain moment, pour n'importe quelle personne qui viendrait se présenter à un poste politique, vous avez deux questions auxquelles il faut avoir une réponse. Est-ce que tu es honnête? Est-ce que tu es compétent? Si tu n'es pas honnête, si tu n'es pas compétent, tu peux être musulman ou pas musulman, tu n'auras pas ma voix. Parce que je ne veux pas trahir Dieu, je ne veux pas trahir sa communauté. Je ne vote que pour le compétent et l'honnête. Et ça, c'est ce que nous devons avoir, nous-mêmes, même avec les musulmans, avec n'importe qui, l'honnêteté, la compétence. Et quand on a deux personnes qui sont, ou trois personnes, ou quatre personnes, on ira chercher le plus honnête et le plus compétent. Mais si, il n'y a que des malhonnêtes, mais c'est rare quand même. Wallahu a'lam. Eh bien, de ce point de vue-là, il faut effectivement que nous, oui, il faut que nous développions une attitude, il faut que nous développions une attitude qui soit une attitude de restitution à la politique, de restitution de sa dimension d'honnêteté et d'attitude correcte. Deux plans qui sont aussi ceux sur lesquels on doit travailler en tant que musulman et en tant que citoyen d'un État où on sent que nos références musulmanes nous posent à un comportement politique honnête, socialement honnête, personnellement honnête,
et qui s'éduque en permanence, eh bien, il y a la dimension de la législation. Il y a des lois qui sont discriminatoires. Il y a des lois avec lesquelles on joue. Et un musulman, là où il est, il développe une attitude par rapport à la loi du toujours plus honnête, du toujours plus transparent, du toujours moins discriminatoire. Et il connaît la loi de son pays et il veut la changer pour le meilleur. Parce que c'est ce qui nous est dit du haut de sept cieux. Si tu es devant Dieu, tu développes une loi qui plaît à Dieu. Et tu la changes dans ce sens-là. Et Dieu, il n'aime pas l'injustice. Et Dieu, il n'aime pas la discrimination. Et Dieu, il n'aime pas que l'on invente des choses qui vont à l'encontre de ce qu'il demande. Et ça veut dire concrètement et personnellement de faire ce travail-là, qui est un travail. Et même ce sur quoi on s'est habitué. Parce que parfois, il y a des lois sur lesquelles on s'habitue, on dit c'est comme ça. Non. On est conscient de la justice et on travaille à changer les lois pour le plus juste. Et on devient des citoyens honnêtes. Et la dernière des dimensions, c'est la sixième, elle est très importante. C'est toute la dimension de l'économie, de la gestion de l'argent. Parce que certains d'entre vous, ils aiment bien le discours que je suis en train de tenir. Tant que je ne parle pas de leur porte-monnaie. Eh bien, le porte-monnaie ici, il est aussi fondamentalement quelque chose que l'on doit gérer. La gestion des finances. La présence de ses propres finances, de son propre argent. Il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas jouer. On ne peut pas jouer avec de l'argent qu'on mettrait dans sa poche et qui vient de l'intérêt, qui est du feu dans ta main, qui est du feu dans ton corps, qui est du feu dans ta vie. Et c'est pas parce que c'est de l'argent que tu prends comme ceci que tu peux oublier. Le musulman, il sait que tout ce qui ne provient pas d'un travail honnête et qui est lié à l'intérêt et à l'usure, c'est l'enfer dans sa poche. Et il doit être très, très, très vigilant. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a déclaré la guerre avec qui joue avec l'usure. La guerre. Ça veut dire que personnellement, comment tu gères ton argent? Ça veut dire qu'ensuite, socialement, tu fais très très attention à comment tu gères ton argent. Parce que si tu meurs et que tu n'as pas donné le droit aux pauvres avant que tu partes, eh bien ça, c'est une des choses les plus graves pour un musulman. Il a volé aux pauvres son droit par négligence. Et de la même façon que c'est son argent personnel, de la même façon socialement. Il faut avoir une attitude honnête par rapport à son propre commerce. Des musulmans qui prient 5 fois par jour et qui oublient que socialement, ils doivent être honnêtes avec la gestion de leur argent. Ils font du commerce où ils volent et ils trichent et ils prient 5 fois par jour en pensant que les prières vont pouvoir effacer cela. Ça ne suffit pas. Et de la même façon aussi qu'il faut avoir par rapport à son propre pays une vraie réflexion sur l'économie et les finances du pays. Il faut avoir un discours critique. Quand il y a de l'argent qui peut partir dans des banques, quand il y a de l'argent qui est volé, quand il y a de l'argent, on ne sait pas où il passe, le musulman, tant qu'honnête, il dit « Je veux savoir, c'est de l'argent des pauvres, c'est de l'argent de la nation, c'est de l'argent qui doit être transparent, on veut savoir où va cet argent. » Et on a une attitude aussi critique par rapport à l'économie d'un pays en essayant de défendre les intérêts dans la justice. C'est l'attitude que nous devons avoir. Et vous avez remarqué, c'est ma conclusion, que tout ce que j'ai dit sur la conception de l'homme et de la femme en islam, qui part, et j'en fais la synthèse, 1, de la foi en Dieu. 2, d'une façon de voir le monde. 3, d'une façon de se comporter, basée sur les 2 principes essentiels, l'effort et la libération. L'effort, parce que la foi musulmane te dit tu dois être en effort permanent pour te libérer de toi-même et de te libérer de tes défaillances. Et tu dois travailler personnellement et socialement. Et c'est notre rapport que l'islam dit à chacun d'entre nous. Tu interviendras dans la société et tu seras un acteur du changement et de la réforme sociale sur 6 domaines. 1, le dhikr et la purification personnelle. 2, l'éducation, l'auto-éducation et l'éducation de tous ceux qui t'entourent, jusqu'à la culture du dialogue, jusqu'à l'esprit critique. 3, la dimension de l'action sociale pour la fraternité, pour la justice, le droit du pauvre, contre la pauvreté, contre l'analphabétisme, contre l'exclusion, la drogue et tout ce qui concerne également la prostitution. 4e dimension fondamentale, l'attitude politique du citoyen honnête. Je ne vote que pour celui qui est compétent, que celui qui est honnête. Et on ne m'achète jamais. Jamais. Jamais on achète une voix simplement pour me dire que parce que je suis comme ci ou parce que je suis comme ça ou parce que je vais te donner ci ou parce que je vais te donner ça. La cinquième des dimensions, à partir du moment où nous avons mis en évidence l'attitude politique honnête, c'est celle qui est l'attitude économique, celle de la gestion des finances, celle qui demande à chacun d'entre nous de regarder ce qu'il fait avec son argent personnel, comment il fait du commerce, comment est-ce qu'il est critique par rapport à l'argent de la société. Et la dernière des dimensions, celle de la promotion d'une législation plus juste contre la discrimination. Une fois que nous avons dit ceci, nous nous apercevons que nous avons une grande contribution à apporter aux sociétés, aux nous vivants. Pas par bonté, mais par devoir. Et j'aimerais terminer cette conférence en vous rappelant à vos responsabilités de musulmans et de musulmanes qui doivent, là où ils sont, répondre en tout cas à ces six critères.